Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, bon. Merci pour cet accueil. C'est vraiment intimidant de voir tout le monde comme ça ici. Je pense que je n'ai jamais prêché dans une aussi grosse église. Fait que c'est à moi aussi de vous gêner là, pour une grande église, bien accueillie. Puis en plus, on a les ados ce matin, c'est le fun. J'entends mon casque frotter. Je m'excuse, je suis un petit peu saisi par tout ça. Merci. Oui, pasteur Jean-Frédéric m'a demandé de présenter un petit peu le réseau évangélique du Québec avant de commencer. Un peu, qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette bébite-là? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le REC, c'est un miracle. Je pense qu'on peut dire que c'est un miracle. Parce que ça réunit ensemble des gens qui ont longtemps été désunis. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, je me souviens qu'à l'église baptiste où j'allais, il y avait une église pentecôtiste au bord de la rue. Puis la jeunesse, on n'avait pas le droit de faire des choses avec leur jeunesse. Hein? Parce que là, ils allaient essayer de nous évangéliser, puis on allait essayer de les évangéliser, puis pendant ce temps-là, on n'évangélisait pas les autres, hein, ironiquement. On s'évangélisait entre nous autres, c'était plus facile. Puis c'était, il y avait comme quand même une méfiance au Québec. Hein? On dirait que c'était comme il y a eu des petites colonies, là, tout le monde, les pentecôtistes, les baptistes, tout le monde voulait faire sa petite famille d'église avec son camp, avec son école. Puis en tout cas, moi, je me souviens dans les années 80, 90, même début 2000, il y avait quand même une grande méfiance entre les dénominations. Puis le miracle est arrivé, je ne sais pas si vous le saviez, mais ici à Québec. À Québec, en 2008, pour le 400e, il y a eu une grande campagne d'évangélisation pour le 400e de Québec. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient de ça? On a distribué des évangiles de Jean dans la ville. Moi, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler des leaders. Et apparemment qu'en coulisses, c'était pas beau. Hein? Aujourd'hui, l'Espoir avait réussi, un ministère d'évangélisation, à réunir les différentes dénominations. On s'est dit, écoute, c'est 400 ans, ça, 400 ans, ça se fête. Il faut faire quelque chose de spécial, il faut rejoindre les Québécois, on va faire des gros événements. Mais en coulisses, tu avais de la jalousie, tu avais de la manque de confiance, tu avais des combats de coq. Il a même fallu que nos conférenciers invités de France fassent un peu de médiation. Mais vous savez quoi? Ça a pété l'abcès. Puis le Seigneur a amené sa guérison pendant ces deux semaines-là. Puis je me souviens d'un frère, un pasteur, Jeff Lorrain, il est décédé maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez un pasteur assez connu à Montréal, puis qui nous citait le passage dans les psaumes qui dit « Oh, qu'il est bon pour les frères d'être ensemble! Hein? » Puis lui, il avait déjà fait une prédication presque complète sur le « Oh! » Oh! Il disait, je pensais pas que ça serait bon être avec les frères comme ça, puis oh, le Seigneur m'a surpris. C'est bon pour les frères d'être ensemble. Et donc, du lendemain du 400e de Québec, les leaders dénominationnels ont commencé à se rencontrer de temps en temps, à manger du poulet ensemble, à prendre des cafés ensemble, à se dire, les petits préjugés que j'avais sur cette personne-là sont peut-être un peu exagérés. Puis finalement, peut-être que même sa famille d'église a des dons que la mienne n'a pas. Puis il me comprend parce qu'on vit un peu les mêmes affaires. Puis à force de se rencontrer, ils ont formalisé, au début de manière informelle, ils ont formalisé ces rencontres-là puis ils ont établi le réseau évangélique du Québec en 2013. Donc en 2013, le réseau évangélique du Québec, c'était principalement une douzaine de leaders de dénominations, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, qui se rencontraient quelques fois par année pour partager, pour échanger, pour parler des points de friction entre eux, de régler ces choses-là. Mais il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose. Moi, ça me fait encore un petit peu des petits frissons quand je parle de COVID. Y a-t-il du monde qui aime ça, parler de COVID ici? Personne! Personne, ben, c'est ça. Hein? Mais il y a eu la COVID. Puis je me souviens à l'époque, Surtout au début, hein, on avait peur. De la Chine, on entendait des taux de mortalité de 3%. C'était comme un peu la vie normale. Puis soudainement, là, c'est comme on a tout fermé. Puis je me souviens encore la première conférence de presse où le gouvernement mentionnait qu'est-ce qui allait se passer dans les restaurants, les salles de spectacle, les bars, les centres de trampoline. Puis aucune mention des églises. Il disait, aucune mention des églises. Mais les centres de trampoline, oui, c'est comme combien il y a de centres de trampoline à Québec? Je sais pas, combien, y en a-t-il des centres de trampoline? C'est un ou deux? Il y en a un ou deux à Montréal. Non, il y a cinq centres de trampoline. Eux autres sont chanceux. Ils étaient dans. Je ne sais pas s'il y avait des ministres qui fréquentaient souvent les centres de trampoline, tu sais. Mais il y avait des directives pour eux. Puis c'est là que les leaders évangéliques se sont rendus compte que la stratégie. Traditionnelle des évangéliques québécois, que j'appelle la stratégie « duck and cover ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Là. C'est comme quand ils faisaient les drills là, pour les guerres nucléaires là, ou les tremblements de terre. Là. C'est tu te penches, tu te mets en petite boule puis tu ne bouges pas. T'sais? Notre stratégie politique de dire « bouge pas, fais pas trop de bruit, puis le gouvernement ne va pas te remarquer, puis ça va bien aller. Hein? » Ben ça ne marchait pas. Parce que là, on essayait de cogner à la porte du gouvernement, puis on ne savait même pas la porte était où. On essayait de sonner à la sonnette, il n'y avait pas de sonnette. On essayait de leur dire, écoutez, vous prenez des mesures qui nous affectent. Puis c'est comme si, justement, on n'existait pas. Et c'est là que le réseau évangélique a commencé à réfléchir, puis à se dire, ouais, peut-être que c'est pas juste l'entre-nous, c'est pas juste de collaborer ensemble. Puis il y avait des belles collaborations quand même qui avaient commencé au niveau de l'implantation d'église. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un comité d'implantation d'églises où les grandes dénominations coordonnent ensemble leurs nouvelles implantations, pour qu'on n'essaye pas d'avoir deux projets d'implantation d'un côté puis de l'autre de la rue qui ouvrent en même temps. Des fois, ça arrive. Là, puis il y a un comité d'évangélisation où que les ministères d'évangélisation se coordonnent ensemble justement pour être plus efficaces à évangéliser les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Mais tout ça pour dire que le réseau a commencé à se dire, ouais, ok, peut-être qu'il faut qu'on améliore notre game un petit peu, là. Faut qu'on passe à l'autre ligne. Ouais, je ne sais pas comment je peux arranger mon micro, là. Ou je prends le bâton, ouais, OK. C'est bon. Je m'entends aussi. Je pense que je suis trop poilu. Je m'excuse, là. Oui, donc, il faut l'ajouter à la présentation. Marie, père de trois enfants, est très poilu. Désolé. Voilà. Bon. Ah, ça fait du bien. Hein? Bon. où est-ce qu'on en était? Ben oui, c'est ça. Donc, on s'est rendu compte que justement, ça, il fallait comme améliorer notre jeu, puis commencer à parler aux gens de l'extérieur. Parce que si on ne le faisait pas, on ne pouvait pas se fier à ce que les gens au gouvernement qui ne connaissent pas les pentecôtistes, ne connaissent pas les baptistes, ne connaissent pas les évangéliques, qui fassent le travail à notre place. De la même manière que les médias, hein? Souvent, qu'est-ce qu'ils font les médias quand ils veulent écrire sur les évangéliques? Ben, souvent, on va être couvert quand il y a des évangéliques qui sont en cours pour des affaires qui sont très humiliantes et gênantes, hein? Puis qu'on doit condamner. On va passer dans les nouvelles quand il y a vraiment quelqu'un de sauté, qui, je sais pas, qui fuit le pays ou qui fait des choses comme ça. Puis, quand ils sont comme « Ah oui, les évangélistes, c'est qui ça? » Ben là, ils vont googler « évangéliste », puis souvent, celui qui sort, les premiers qui sortent sur Google sont les plus, comment dire, extravagants du milieu. T'sais? Fait qu'il y a comme un genre de... Ça aussi, la couverture, on se rendait compte que la couverture des évangéliques était quand même généralement assez négative. Les sondages montraient que seulement 4% des milléniaux ont une opinion positive des évangéliques. On est un petit peu en avant du cancer, mais pas de beaucoup. Là, c'est des choses qu'il fallait travailler. Et donc, c'est là qu'à partir de 2022-2023, justement, on s'est incorporé. Moi, j'ai été approché pour m'occuper de la direction des affaires externes, puis Jean-Frédéric l'a bien résumé. C'est un peu parler au gouvernement, parler aux médias, puis parler aussi aux autres groupes de la société civile, des groupes religieux, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. ou justement collaborer. Fait qu'on, j'ai pu, dans les dernières années, j'ai eu le privilège de bâtir des ponts avec des politiciens, des journalistes, puis beaucoup de monde qui travaille en arrière-plan au gouvernement, puis qui nous aide à anticiper, à prévoir, puis même des fois qui nous écoutent par rapport aux lois qui nous affectent. On a eu une belle couverture à l'automne dans le magazine L'Actualité. Il y a eu un gros reportage sur les évangéliques. Puis pour vrai, pour la première fois, moi, je trouvais que c'était comme... C'était pas négatif, tu sais. C'était comme... bon, c'était pas juste positif non plus, mais c'était quand même encourageant de dire, bon, ben, il y a des Québécois qui sont évangéliques. Voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui croient. Une des choses que je répète souvent aux politiciens puis aux médias, c'est que on a l'impression que les gens qui sont pratiquants sont extrêmement marginaux au Québec, mais non, on est très nombreux, puis on est en croissance en fait. Ça, c'est une chose qu'il faut tout le temps répéter aux politiciens. Si on calcule le nombre d'entrées dans toutes les salles de spectacle, dans tous les spectacles au Québec, là, ce qui inclut le théâtre, le cinéma à côté, puis le Festival d'été de Québec, bien, il y a deux fois plus d'entrées dans des lieux de culte que dans tous les spectacles, le cinéma, les arts réunis. C'est gros, ça. C'est énorme. Je veux dire, il y a plein de monde qui sont réunis pour louer le Seigneur ce matin à Québec, là. Hein, beaucoup plus que de monde qui vont être réunis, qui ont été réunis toute la semaine dans toutes les salles de spectacle. Hein, notre Dieu est un Dieu puissant, il faut le louer. Il mérite notre louange, il mérite notre honneur, qu'on lui rende la gloire. Une autre chose que j'aime partager, c'est l'étude Halo. Ça aussi, c'est en collaboration avec l'Institut Cardus. C'est des chercheurs qui... Vous savez, on entend souvent dire « Ah, les églises, ils ne payent pas de taxes, ça tue pas d'allure, qu'ils ne payent pas de taxes. » Comme si on était comme un Ashton, tu sais. Où ce que nous, on est là pour faire de l'argent, puis il faut qu'on paye une partie de nos profits. Les églises ne font pas de profit, là. On est plus comme une école, comme un hôpital. Les autoroutes ne payent pas de taxes non plus. Hein? C'est correct, parce que c'est un service public. On est un service public qui n'est pas organisé par l'État. Mais l'étude Halo, ce qu'elle démontre, c'est que l'effet positif pour le quartier, en moyenne au Canada, c'est 10 fois plus que l'argent qui est exonéré en crédit d'impôt quand vous donnez à l'Église ou en taxe foncière. Donc, l'Église a vraiment un impact positif. Puis il y a certains politiciens, certains arrondissements à Montréal où ça commence à être reconnu. Nous, on le voit au REC, là, il y a des places, c'est quasiment impossible d'ouvrir une église. Puis il y a d'autres places qui disent, vous savez quoi? La criminalité baisse, les gens sont plus sécurs dans le quartier, il y a des services offerts pour les alcooliques anonymes, pour des choses comme ça. On voit l'effet positif des églises. Bien, nous, c'est important pour nous de parler de ça aux non-chrétiens, aux gens, aux dirigeants, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Hein? Et donc, c'est ça. Fait qu'il y a une partie, ça, c'est la partie publique de mon travail. On va passer à la parole. Parce que moi, j'aime mieux prêcher la parole que parler du REC, mais c'est quand même important qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Hein? Ça, c'est la partie publique. Mais quand je suis dans les églises, je peux parler aussi de la partie privée. Hein? Puis vous dire que si c'est vrai que vous voyez des gens qui ont, à la télé, qui ont souvent une attitude très hostile par rapport à la foi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au gouvernement, dans les médias, qui sont très ouverts à la foi. Puis Dieu a placé des Daniel puis des Esther un petit peu partout. Je le sais, vous le savez, parce que il y en a ici probablement ce matin aussi. Hein? Des gens qui sont chrétiens, qui sont engagés, puis qui travaillent dans des endroits clés par rapport à ce qui affecte l'Église. Des gens qui sont capables d'influencer, qui sont capables d'être une voix aussi au sein des médias puis du gouvernement. J'ai même rencontré des journalistes qui, même s'il n'y avait pas un arrière-plan chrétien, en étaient venus à apprécier profondément l'Évangile puis la foi chrétienne en étudiant Jean-Sébastien Bach. Hein? C'est quelqu'un qui avait étudié Bach puis la Passion selon saint Matthieu et toutes ces choses-là au conservatoire, puis s'était dit « Wow, c'est tellement beau l'Évangile ». Et donc, il y a des gens qui sont ouverts à la foi à cause de la musique classique ou pour toutes sortes d'autres raisons. Je réalise qu'à peu près tous les politiciens, tous les ministres ont un cousin ou une cousine évangélique. Hein? Comme tout le monde en connaît, finalement. Tu sais. Puis on n'est pas... Moi, ce que je répète souvent, c'est que, un peu comme Paul faisait, hein, Paul, souvent, il disait, « Hey, je suis citoyen romain. » Des fois, il attendait de se faire battre pour dire, « Hey, t'avais-tu le droit de faire ça, un citoyen romain? » Tu sais, parce que ce qui était important pour lui, c'était pas sa citoyenneté, c'était l'Évangile, l'avancement de l'Évangile. Puis d'autres fois, il disait avant, tu sais, « Je suis citoyen romain. » Puis nous aussi, on est citoyens québécois. On est des vrais Québécois. On est chrétiens avant, mais on est Québécois autant que tout le monde. Puis on a une place dans cette société-là. Puis on veut le bien de cette société-là. On n'est pas là pour se battre contre vous autres. On est pour vous. Hein? Mais on a un message qui dérange. Ben voilà, c'est ça. C'est ça Et donc, c'est ça. Puis une chose aussi que je réalise en faisant ce travail-là, c'est de voir la qualité des gens que Dieu a donné à son Église. Hein? Ça aussi, c'est comme... des fois, le gouvernement nous imagine comme si on était une entreprise privée, mais d'autres fois aussi, je me dis, hey, si tout le temps qu'on donne... Hey, vous avez vu l'équipe musicale? Moi, j'étais impressionné. Hein? Il y a une corde qui pète, il change, il va faire des power chords, il continue à jouer, une autre guitare arrive. Tout ça, combien ça coûterait dans le secteur privé, là, quelque chose comme ça? Là, des musiciens de même, combien ça coûte toute l'équipe à l'école du dimanche, tous les gens qui enseignent aux jeunes? Il y a tellement de gens qui donnent de leurs dons, de leurs talents dans l'Église, que si on mettait... ça, dans les revenus de l'Église, puis qu'on faisait le total au Québec, là, probablement qu'on serait la plus grosse organisation au Québec. Hein? Mais c'est parce qu'on est dans... on n'est pas dans l'argent, on est dans le don. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, souvent, je trouve qu'il y a un complexe d'infériorité chez les évangéliques au Québec, où on ne réalise pas toutes les richesses spirituelles que le Seigneur nous a données. Puis ça inclut les cadeaux qui sont à votre gauche puis à votre droite ce matin. Hein? Puis c'est ce qui m'amène au passage de ce matin dans Éphésiens 4. Vous tournez dans Éphésiens 4 à partir du verset 1, où un passage qui va nous parler de l'Église dans son unité, sa diversité et sa finalité. Puis il va nous parler du cadeau, des cadeaux nombreux que le Seigneur nous a donnés. Okay? Donc, on va lire. Puis on va y aller ligne par ligne par après, parce que comme ça j'ai appris à prêcher. Puis je disais aussi à Jean-Frédéric, je suis le genre de gars qui se tient derrière le lutrin parce que j'ai quasiment tout le temps prêché dans une église où le stage y était. Il y avait tellement d'instruments, j'ai passé 10 ans à prêcher comme ça, puis je pouvais pas me mettre de même. Fait que je suis désolé si je bouge. Je pense que c'est la première fois que je bouge sur un stage, là, le live. Là, fait que, ouais, merci. OK, Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est la parole du Seigneur. Vous dites, la prédication va être longue. Je suis désolé, c'est une des plus longues phrases dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas, vous avez remarqué, là, à partir du verset 12, là, c'est virgule, 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 virgule. C'est une seule phrase. On ne peut pas couper. On coupe ici. Ne faites-vous-en pas. On va suivre ça, puis vous allez être à temps à la maison tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure comment que... on a un complexe d'infériorité avec le monde, hein, des fois, les chrétiens. Puis, si on écoute qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, on ne devrait vraiment pas avoir ce complexe d'infériorité-là. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il commence, dans le premier chapitre, à leur dire qu'il veut qu'ils comprennent toute la richesse spirituelle qu'ils ont reçue dans les lieux célestes. De dire, vous pensez que vous êtes petit, vous êtes faible, mais vous êtes riche à cause de Jésus-Christ. Mais je me souviens, je parlais à ma fille hier, puis elle me disait comment que, tu sais, des fois, elle est timide à son école secondaire de dire à ses amis qu'elle est chrétienne, tu sais. Puis elle dit que c'était pas comme ça au primaire, parce que grandissant, elle pensait que tout le monde allait à l'église, puis tout le monde était chrétien, tu sais. Fait qu'elle demandait à ses amis, à quelle église tu vois, qui tu vas? Toi, t'es pas allé à l'église dimanche, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis on dirait quand tu arrives à l'adolescence, puis tu te détaches, à mesure que tu deviens plus indépendant de tes parents, on dirait que le besoin d'acceptation des autres est plus grand. Je sais qu'il y en a plein au secondaire qui sont dans cette transition-là. C'est pas facile. Je pense qu'on passe toutes par là. On a comme cet attachement-là personnel à Christ, mais de le dire aux autres, il y a comme une gêne. Hein? Ou tu sais, comme quand tu arrives dans un nouveau travail, tu n'es pas gêné d'être chrétien, mais tu sais que comme le jour que ça va sortir, tu sais, ta cote de popularité va baisser quand même un petit peu. Hein? Hein? Il va falloir que tu travailles après. Moi, je me souviens que la chose la plus cool qui existait quand j'étais jeune, c'était les pantalons Adidas. T'sais, ceux-là avec des petites snaps, là. Ça c'était cool. Là. Tu pouvais avoir des shorts en dessous, tu arrivais au gym, c'était cool. T'sais. Puis on n'avait pas beaucoup de sous chez nous, puis ma mère achetait tout le temps, tu disais tout le temps ce que tu voulais, puis ta mère t'achetait tout le temps genre... Le pantalon à quatre lignes de chez Temu, là, tu sais, avant que Temu existe. Hein, vous savez ce que je veux dire? Y a-t-il du monde ici là, que leurs parents leur achètent des affaires chez Temu? Là, ou, hein, tu sais? Bon. C'est ça. Tu sais, c'est... Puis des fois, c'est comme, on dirait, c'est ça qui se passe avec les chrétiens. On essaye d'imiter le monde, mais finalement, on se regarde, puis c'est comme... Ouais. Tu sais, c'est comme la version Temu du monde. Vous trouvez pas? Hein? Et moi, je vous dirais, il y a bien des choses que le monde fait, puis qui imitent l'Église, puis ce que le monde fait, c'est la version Temu de l'Évangile. Hein? Satan, c'est un menteur, puis c'est un imitateur. Puis c'est pas mal la version Temu de l'Évangile. Hein? Il essaye, même, tu sais, comme il y a le Christ, il y a l'Antichrist. Hein? Il y a les prophètes, il y a les faux prophètes. Il y a comme un faux Évangile aujourd'hui, mais qui sonne chrétien, mais quand tu regardes plus proche, t'es comme, c'est pas tout à fait chrétien. Puis quand tu creuses un peu, t'es comme, non, il y a des affaires là-dedans qui sont même hostiles à l'Évangile. Moi, j'ai été fonctionnaire. Il doit y avoir des fonctionnaires ici. Hein? Oui, à main levée, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui ont eu à participer à des ateliers d'équité, diversité, inclusion? Oui? Hein? Vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est ça. Bon, je trouve... C'est pas mal de voir l'équité, la diversité puis l'inclusion, mais j'ai toujours trouvé que ces ateliers-là, étant chrétien, c'était comme la version Temu de l'Évangile, puis c'est la version Temu de l'Église. Puis l'Église ne parle pas d'équité, diversité, inclusion. Le passage qu'on a ici, on parle d'unité en premier, hein, parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous diversifie. On a une identité commune. Mais on parle de diversité, hein? La diversité, c'est bon, c'est un cadeau, c'est une richesse. Puis l'inclusion, ben, c'est comme si l'inclusion, c'était une fin en soi dans le monde. Hein? Le faux évangile aujourd'hui, parce que les gens ont une religion. Moi, je ne crois pas aux gens qui n'ont pas de religion. Le monde qui coche athée ou agnostique, je ne les crois pas. Tout le monde a une vision de c'est quoi la bonne vie, c'est quoi le salut, c'est quoi qui me donne une valeur. Ils ne vont peut-être pas avoir un rendez-vous hebdomadaire, un livre saint puis un Dieu transcendant, mais ils vont avoir une religion, c'est sûr. Hein? Puis on le voit, hein, t'écoutes la TV, t'écoutes Marvel, puis t'as cet évangile-là, des fois. Hein? Et la religion du monde aujourd'hui, c'est vraiment ça. Tu dois découvrir dans ton profond intérieur ton identité cachée. Hein? L'homme n'est bon, la société le corrompt. Fait que si tu ne fites pas dans la société, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des autres. Puis le travail de l'État, c'est de s'assurer que tu te sentes inclus. C'est le travail de ton employeur. Est-ce que je touche à quelque chose qui fait mal ici? On dirait que c'est silencieux. Hein? Puis c'est un petit peu à l'envers, parce que le but de l'Évangile, le but de l'Église, c'est l'édification jusqu'à ce qu'on ressemble à Christ. Ce qui est très différent. Ça ressemble, c'est encore mieux en fait. C'est beaucoup mieux. Il y a un désir d'inclusion, on est les membres d'un même corps. Tu ne peux pas être plus inclus que la rate dans ta cavité abdominale. Ça c'est inclus. Hein? Mais c'est pas la même chose. Et donc, on va voir dans ce passage-là vraiment la version originale, hein? La OG version de l'équité, diversité, inclusion. C'est l'unité, la diversité, puis l'édification. Unité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bon, je vous exhorte donc. Paul, il y a comme un style, hein? Il y a comme une méthode. Il parle souvent de la théologie, la grande théologie. Hein? Il explique l'Évangile dans la première moitié de sa lettre. Puis là, il y a un point de transition. Il fait ça dans Romains, il fait ça dans Éphésiens, il fait ça partout. Puis ici, donc, quand il dit « donc », je vous exhorte donc, il est en train de dire « OK, ce qui s'est passé de 1 à 3, maintenant, on va l'appliquer. » OK? Moi, le prisonnier dans le Seigneur, Paul, il écrit ça en prison. Puis je pense qu'en prison, il réalise le besoin... Il réalise que le ministère doit continuer. Il se fait sans lui à l'extérieur de lui. Ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos du cœur de Christ. Et donc, il exhorte les Éphésiens à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Sa captivité est contrastée avec le fait qu'eux peuvent marcher. Mais l'image de marcher... c'est aussi une répétition ou une application d'un passage clé qu'on connaît presque tous dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Okay? Ça, c'est un des plus beaux passages. C'est ça qui est le fun, le monde qui va à l'IBQ, puis tu fais un petit cours de grec, là, tu peux voir ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous connaissez ça? Hein? Ça ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie, et le twist, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Hein? La tendance de l'homme, c'est faire des choses pour se prouver à Dieu, puis Paul est en train de dire, non, non seulement t'es sauvé par la grâce, pas par les œuvres, c'est toi qui es l'œuvre de Dieu. Dans le grec, c'est poema, c'est comme une œuvre artistique, là. C'est comme un édifice, comme quelque chose de merveilleux. Et il dit, t'es une œuvre, puis non seulement t'es l'œuvre de Dieu, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Et dans le grec, dans le français, on a « afin que nous les pratiquions », mais dans le grec, c'est vraiment « afin que nous marchions dedans ». Dieu a des œuvres d'avance pour toi. T'es un cadeau de Dieu, t'es une œuvre de Dieu, puis Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alors, quand Paul, deux chapitres plus loin, dit de marcher d'une manière digne de la vocation qu'on a reçue, c'est ça qu'il veut dire. Hein? Il y a des œuvres dans lesquelles on doit marcher. C'est pas ces œuvres-là qui nous sauvent, mais c'est ces œuvres-là qui sont comme le cadeau que Dieu fait à l'Église. Et donc, il va dire, ces œuvres-là, il va les décrire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est des œuvres. Vous savez, c'est quoi l'étage le plus important d'un gratte-ciel? C'est quoi l'étage le plus important d'un gratte-ciel? C'est le sous-sol. L'étage le plus important de cette bâtisse-là, même si on pourrait penser que c'est le sanctuaire ou l'école du dimanche, parce que tous nos précieux enfants sont là, si la fondation est mal faite, là, Ça fait dur. Moi, j'ai été pasteur dans une église qui avait été construite à Montréal, là, avec en dessous la roche du tunnel Hippolyte Lafontaine, plein de pyrites. Nous, on avait du tapis, pas parce que c'était beau, mais c'est parce que ça épousait bien les courbes de notre plancher. On peut penser que les œuvres importantes, c'est celles qui sont visibles, celles qui sont faites en avant, c'est la prédication, c'est la louange, les œuvres importantes dans l'Église, les œuvres fondamentales. Ce qui fait qu'une Église ne tient pas, c'est l'humilité. Marcher avec douceur, avec patience, se supportant les uns les autres. C'est toutes ces choses-là que des fois, quand tu as un ministère, tu dis c'est une interruption à ton ministère. Non. La petite chicane que tu dois aller régler, ce n'est pas une interruption à ton ministère, c'est ton ministère. C'est ça la job. Aller visiter quelqu'un de malade, c'est pas comme une interruption dans ta semaine. C'est ça la base, c'est ça la fondation, c'est ça l'étage, le sous-sol, le souterrain. Et donc, l'œuvre la plus importante d'une église locale, je dirais, c'est pas tant son culte, sa louange ou ses ministères publics. Les plus critiques se trouvent au niveau que les gens se traitent les uns les autres dans l'église. C'est vraiment à ça que tu vois la santé d'une église. C'est pas au niveau de ses offrandes, c'est pas à l'assistance, c'est pas au nombre. Souvent, on aime ça, les choses qui sont... Dans notre société, ce qui se compte, c'est ce qui finit par compter, souvent. Hein? Est-ce qu'on a fait une bonne année? On regarde le budget, on nombre le nombre de fesses dans les chaises, puis on se dit « Ah, merci Seigneur! » C'est plus difficile de calculer. Est-ce que les gens parlent bien les uns les autres? Est-ce que les gens sont patients? Est-ce que les gens qui ont des caractères les plus difficiles sont inclus dans l'Église? Hein? C'est ça, ces questions-là qu'il faut diagnostiquer. Et donc, il nous dit ces œuvres-là, en nous efforçant, hein, parce que ce n'est pas facile, ça demande du travail, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de garder l'unité. Des fois, c'est vrai qu'on n'est pas un cadeau. Tu peux confesser à ton voisin, c'est vrai, des fois, je ne suis pas un cadeau. Juste moi, c'est vrai, des fois, je ne suis pas un cadeau. Hein? Non, mais c'est vrai! C'est vrai! Hein? Si on se regardait nous-mêmes dans notre vie, des fois, on n'est pas un cadeau. Mais ce qui nous unit est plus fort. Et là, c'est là qu'il passe, il parle de l'unité, des efforts qu'on fait, des œuvres. Mais il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Hein, si ça ne matche pas dans la vie, un corps, un esprit, c'est un problème profond. Tu sais. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est un. L'unité, c'est pas juste la politesse qui fait l'unité d'une église, c'est pas juste qu'on est fin les uns avec les autres. Non, c'est vrai qu'il faut s'efforcer à être fin les uns avec les autres, mais on est fin les uns avec les autres parce qu'on a été racheté par Christ puis placé dans un même corps. Si on reconnaît pas ça, puis l'unité de l'église, c'est parce que c'est le fun de se voir, ben l'unité, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus le fun? Hein? Ce que le Seigneur a uni, que l'homme ne le désunisse pas, bien, il a uni l'Église ensemble. C'est pour ça que c'est tellement beau de voir le miracle que le Seigneur fait avec le réseau évangélique, par exemple. Ça, c'est un miracle dans l'Église locale, c'est un miracle parce que c'est des gens de toute race, de toute tribu, de toute nation qui sont unis ensemble dans un même corps. Puis c'est beau aussi au niveau dénominationnel. Mais à chacun de nous, et là, il passe de ce qui est un, puis il va passer au mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Hein? Cette unité n'est pas totalitaire. Elle n'efface pas l'individu. Hein? Les chrétiens, on n'est pas fait en série sur le même modèle. Ce n'est pas une unité comme les nazis faisaient ou les communistes faisaient. Là. C'est un autre genre d'unité. C'est une unité où on est, en fait, un cadeau à cause de notre diversité. Et c'est pour ça qu'il y a un « mais » qui est très important. À chacun de nous, la grâce, hein, le cadeau a été donné dans la mesure du don de Christ. C'est un cadeau qui est donné par Christ et à sa mesure. Donc, c'est comme tu sais, quand tu arrives à Noël, hein, puis il y a comme un gros cadeau en dessous de l'arbre. Là. Ça, c'est le cadeau, la mesure du Christ. Hein. Et là, on passe à la diversité. Et là, ça, c'est un de mes passages les préférés dans toute la Bible, mais c'est un peu spécial. Je vais avoir besoin que vous me suiviez parce qu'on va sauter à l'Ancien Testament puis on va revenir puis on va parler de choses bizarres, OK? Suivez-moi. Il va dire, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. OK? Là, il faut comprendre, il cite un psaume. Et Paul fait comme le DJ. Il est en train d'écrire, puis là, il sort son disque, là, puis là, il est comme... Puis quand il dit ça, il faut comprendre que le monde qui l'écoute, il y a 150 psaumes. C'est pas tant que ça. Tu sais, OK, psaume 119, il est long, mais à part lui, mettons, c'est quand même gérable. J'ai regardé sur Spotify les classiques des années 80 québécois, il y a 100 chansons. Ça fait 6 heures de chansons, tu sais. Puis si je vous dis « Seul sur le sable », vous allez me répondre « Les yeux dans l'eau », parce que, tu sais, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras, hein? Hein? Ou « Pour qui tu te parfumes? Pourquoi t'as salé ton café? » Hein? Vous connaissez cette chanson? Ceux qui étaient là dans les années 80, je suis vieux, je le sais, là, tu sais. « Aujourd'hui, je vois la vie, avec quoi? » Avec les yeux du cœur. Fait que vous voyez, on a un répertoire, nous autres aussi. Puis je te chante un refrain, puis tu sais tout de suite de quoi je parle. Les Juifs aussi, à l'époque, tu leur cites le psaume 68, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ils sont capables de dire, OK, c'est quoi la thématique du psaume? C'est quoi le contexte? Bien, c'est un psaume de victoire. Non? Le psaume 68, dans lequel on est, c'est un psaume de victoire. Puis il commence comme ça. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Puis au verset 16 et 17, il va dire, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accorde, Dieu délivre. Vous voyez ici, Dieu fait, c'est le roi de Dieu, hein, c'est le général de Dieu qui fait un double mouvement, il monte et il descend. Mais dans ce psaume-là, il mentionne les montagnes de Bassan. Et ça, c'est là où ce que je dis, c'est un peu compliqué. Bassan, c'était le royaume d'Og, roi de Bassan, c'était un des géants, c'était un des descendants des Réphaïm qu'on appelait hein, dans les géants dans l'Ancien Testament. Et c'était comme, Bassan était venu à représenter ces entités spirituelles rebelles à Dieu. Okay? Donc, quand vous voyez la mention de Bassan dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes, souvent c'est une représentation des forces rebelles, des forces spirituelles rebelles à Dieu, hein, les forces démoniaques. De la même manière dans le psaume 22, hein, le psaume de crucifixion, hein, quand on dit « ne t'éloigne pas », quand Jésus va, que Jésus, quand il crie « Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il n'est pas en train juste de dire « tu m'as abandonné Dieu », il est en train de citer le premier verset du psaume 22. Hein? Puis ce psaume-là décrit la crucifixion. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. » Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Donc ici, Paul est en train de parler des forces démoniaques qui dominent sur le monde. Puis ça, depuis la chute, hein, l'homme n'est pas bon. L'homme n'est mauvais et sous l'emprise du péché. On est esclave du péché par nature. Mais Jésus, c'est le général victorieux qui est descendu. Il a fait des captifs, hein, comme ça se faisait dans l'espace. Hein. Le général vainc l'ennemi, il prend des prisonniers, puis il les ramène dans sa ville et il fait des dons aux hommes. Il fait des cadeaux aux hommes. Toi, t'es un cadeau pour les gens autour de toi. Chacun d'entre vous est un cadeau pour l'Église. Fait que j'aimerais que tu dises à ton voisin, je suis un cadeau. Hein? Je suis un cadeau. Ouais, puis t'es un cadeau pour moi. Non, mais pour vrai, regardez comment vous êtes riche. Regardez tout ce que le Seigneur vous a donné. Tous les dons qu'ils vous ont. Hey, si moi, il avait fallu que je fasse la musique ici un matin, là, vous seriez tous. Vous ne m'avez pas vu taper des mains, hein? Ce n'est pas parce que je ne suis pas dedans. C'est parce que je ne suis pas capable de chanter et taper des mains en même temps. Fait qu'oublie ça comme jouer. T'sais, on a des cadeaux les uns pour les autres. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère souvent avec les frères, les sœurs. Je parlais à ceux qui sont à la maison. Je sais qu'il y en a qui sont à la maison parce qu'ils ont des handicaps, des choses comme ça. C'est correct d'être à la maison. Mais des fois, il y a du monde qui vont dire, j'ai pas besoin d'aller à l'église, moi. Je vais écouter le message sur Internet, puis ça va être correct. Je suis mature, moi.
Hein? Je prie dans ma maison, puis je suis mature. Je n'ai pas besoin des autres. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Peut-être. Moi, je ne suis pas mature comme ça, j'ai vraiment besoin des autres. Okay? J'ai vraiment besoin des autres. Mais mettons, on ne s'ostinera pas. Tu es super mature et tu n'as besoin de personne. Tu es quand même un cadeau que Dieu a fait à l'Église. Tu es quand même un cadeau que Dieu a fait à l'Église. Tu ne vas pas à l'Église simplement pour ce que tu en retires. Tu vas à l'Église parce que Dieu t'a capturé du pouvoir des ténèbres puis il t'a donné en cadeau aux autres. C'est pour ça qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais ça, souvent, c'est la honte. C'est la honte, c'est le mensonge de Satan qui te fait regarder en toi, mais tu es comme, « Ouais, mais lui, il a des dons. Moi, qu'est-ce que je suis, moi? » Arrête de t'ostiner avec Dieu. Hein? S'il t'a pris puis il t'a donné, c'est parce qu'il voulait te donner en cadeau. Selon sa mesure parfaite. Puis on est un cadeau, puis tu sais quoi? On est un cadeau en perfectionnement, et c'est là qu'on passe à l'édification. Je sais qu'il y a des gens qui sont nerveux parce qu'il reste quelques versets encore, mais on va aller vite. Jean-Frédéric n'est pas nerveux, c'est cool. Non. Il a fait des cadeaux. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je ne crois pas que ce soit une liste exhaustive. Hein? C'est pas si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas un cadeau. Non, c'est comme Paul, il s'en va faire une phrase de comme 38 lignes tout de suite après. Là. Il fallait qu'il soit bref des fois. T'sais, on ne va pas se fâcher après Paul quand il est bref. Je pense qu'il y a aussi des musiciens, il y a aussi des gens qui ont un don d'hospitalité. Hein? Il y a tellement de dons que je vois que j'admets. Moi, je n'ai pas tant le don d'hospitalité. Tu sais, c'est comme, j'aime ça voir du monde, mais quand c'est fini, il faut que j'aille faire une sieste. Hein? Puis je connais du monde dans l'église, là, ils ont tout le temps du monde chez eux. C'est comme, tu sais que s'il y a quelqu'un de nouveau à l'église, ils vont finir chez eux. Parce qu'ils invitent tout le monde. Hein? C'est quoi les dons que vous aimez que vous n'avez pas? Est-ce que quelqu'un est capable de me nommer un don qu'il apprécie dans l'Église aujourd'hui et qu'il n'y a pas? Écoute! C'est le fun! C'est vrai, il y a du monde qui ont des dons d'écoute. Hein? L'hospitalité! L'hospitalité, c'est apprécié! Est-ce qu'il y a un don d'un frère, d'une sœur pour lequel vous êtes reconnaissant? L'encouragement. On a rencontré la trésorière tantôt. Hey, moi, des produits croisés, je ne suis même pas capable de faire ça. Ça me prend. J'ai appris Pythagore. Là. Pythagore, c'est correct. Mais c'est... Écoute, s'il n'y a plus de trésorerie dans l'Église, là, ça va mal assez vite quand même. Hein? C'est comme, il y a des dons comme ça qui sont cachés et qui sont super importants et pour lesquels on devrait être reconnaissant. La prédication, oui. Mais souvent, c'est un don qui est visible, pasteur, docteur. Puis je pense, oui, c'est utile, la prédication, puis il faut être reconnaissant pour ça, mais Dieu a donné une multitude de dons. Il l'a donné pourquoi? Est-ce que c'est pour glorifier ceux qui ont les dons? Non, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, ce qui est un peu la même chose, le perfectionnement. Perfectionnement, dans le grec, là, ça vient du mot « telos ». Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire « parfait, note de 100 %». Ça veut dire « mature ». Okay? Ta banane jaune, qui a deux, trois petites poques, elle est dans le sens grec du terme « parfaite ». Quand elle est verte, elle n'est pas parfaite. Quand elle est comme brune puis molle, puis tu l'as oublié dans ton congélateur, elle n'est pas parfaite. Mais quand elle est jaune et prête à manger, même si elle a des poques, elle est parfaite. Elle est mature. Elle est arrivée à sa... pleine maturité. Et donc, on est des cadeaux les uns les autres, mais dans le but que l'Église, puis chacun de nous, on arrive à notre pleine maturité. Pour l'édification du corps de Christ, c'est pas, t'es un cadeau, mais c'est, l'histoire n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus qui donne, qui te donne aux autres. C'est à propos de Jésus. Moi, j'ai un gars de 14 ans, il a pris un pied depuis l'été, puis il joue au football. Fait que pour lui grandir, l'édification du corps, pour lui, c'est très important. Et même, j'ai parlé à d'autres pères d'adolescents, je me suis dit, c'est normal que t'as, comme tes gars, est-ce qu'ils se regardent beaucoup dans le miroir en flexant? Puis, peut-être pas toutes, mais le mien, oui. Puis, as-tu hâte d'être grand? Mais c'est sûr, parce que si t'es pas grand au football, tu te fais vraiment ramasser. T'sais? Mais est-ce qu'il devient grand pour lui-même? Est-ce qu'il s'entraîne pour lui-même dans son équipe? Non, il s'entraîne pour l'équipe. Puis même son style d'entraînement va dépendre du rôle puis de la position qu'il joue dans l'équipe. T'sais? Lui, il est cornerback, je ne sais pas comment on dit en français. C'est celui qui couvre le receveur. Fait qu'il faut qu'il soit vite et vif. T'sais? Mais il a invité demi de coin. Mais tu sais, il a invité des amis cette semaine à la maison, puis il y en a un qui a défoncé mon cadre de porte de salle de bain parce que, tu sais, c'est comme elle n'a pas ouvert assez vite, puis lui était centre. Hein? Gros de même, tu sais. Mais échange-les pas de place, les deux, là. L'équipe va pas bien aller, là. Tu sais? Puis je pense que c'est un peu ça dans l'Église. Tu sais, il y a un temps où ce que tu trouves ta place. Mais ta maturité, ta croissance, c'est pas pour toi, c'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu à travers le service des autres. Okay? Et là, il va parler de la maturité. Bien, c'est quoi une église mature? C'est quoi l'équivalent de la banane jaune, peut-être un peu poquée? C'est qu'on n'est plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans la charité. Ça, c'est clé dans une église, ça prend les deux. Puis ça, c'est-tu dur comme pasteur quand tu fais de la discipline d'église? C'est vraiment la job la plus difficile. Vraiment, là, moi, j'haïs ça faire ça. Je le confesse. Puis il y a deux manières de se débarrasser de cette partie-là de la job. Je vais vous dire un secret. C'est d'être juste dans la charité ou juste dans la vérité. Hein? Juste dire... Si tu n'es pas capable de vivre comme un chrétien votant, on ne veut pas de toi ici. Hein? Ou de dire, ah ben Dieu est bon, Dieu est patient, puis fais donc ce que tu veux. Hein? La vérité dans la charité. Ça, c'est la marque. Puis ça, ce n'est pas juste la job du pasteur là-dedans. Hein? Vous avez vu, c'est comme il a donné tous les dons afin que nous, on dit la vérité dans la charité en chantant, on dit la vérité dans la charité en prêchant, on dit la vérité dans la charité dans nos relations les uns avec les autres. J'ai invité le groupe de louanges à s'avancer, puis j'ai prié pour vous. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour le cadeau merveilleux que tu nous as donné. Merci pour mes frères, mes sœurs ici. Cette Église que tu nous as donnée parce que tu t'es donné. Seigneur, qu'on puisse être des cadeaux les uns pour les autres. Et que l'Église évangélique, que les dénominations aussi, les pentecôtistes, les baptistes, les mennonites, les méthodistes, chacun avec leur marque, leur caractère, puissent aussi être un cadeau les unes pour les autres. Qu'on soit unis dans un même corps et qu'on puisse être un témoignage vivant pour le Québec. En Jésus, je te prie.